Alors, on va commencer le cours. On est à la page 41, le point 3.2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Jai Srila Prabhupada ki. Jai.
Jai.
Alors, on est à la page 41. Réjean, es-tu capable de lire?
Non.
Ah, on a Virginie qui s'en vient à un moment. Voilà, ta ta ta.
Avec
Ouais.
Krishna, niveau.
Avec Krishna
Avec
Virginie, ça va?
Ça va bien avec vous-même.
Oui, ça va bien.
Allez, Krishna.
Alors, on te demande de lire
3-2, OK.
3.2, s'il vous plaît.
Je vais juste prendre la page.
Page 41.
Oups. Chacun possède le pouvoir de parler, dont il se hâte d'user dès que se présente l'occasion. Dès que deux êtres humains se rencontrent, dès que des êtres humains forment le moindre groupe, la tendance spontanée sera de briser le silence et parler. C'est automatique. Le contexte voudra de briser d'abord la glace et ensuite, après une couple de blagues, y aller du vif du sujet. Et s'il n'y a aucune raison de faire preuve de sérieux, ce sera une suite de sornettes après l'autre. Que de paroles en l'air qui, au final, ne veulent rien dire qu'une seule et même chose, perte de temps et de salive. Et tout le monde se pensera intelligent, candide, d'avoir agi de la sorte. Dans ces rencontres, la langue s'est permise de divaguer, papillonnant d'une banalité à l'autre sans aucun profit tangible. Mais si quelqu'un se veut conscient de Krishna, il n'y a qu'un sujet qui vaille la peine de porter sur sa langue, Krishna. Un dévot de Krishna est automatiquement introspectif. Il fait attention à ce qu'il pense. Il ne veut pas dévier en pensée du sujet principal qu'il s'est fixé, Krishna. En fait, c'est nul autre que lui qui pense deux fois avant d'ouvrir la bouche. Du fait d'être franchement introspectif, il ne veut pas, il ne tient absolument pas se méprendre à dire des bêtises. De ce point de vue, il est toujours grave. Grave ne veut pas dire qu'il est essentiellement tout silence, mais simplement qu'il n'y a que Krishna qui sort de sa bouche. Être grave est d'ailleurs une des 26 qualités d'un dévot. S'il ne peut parler de Krishna, il se fait un devoir intérieur de penser à Krishna, peu importe. Les dualités extérieures lui sont égales. Il n'a que pensé que pour Krishna. Tel est le mode de vie d'un dévot de Krishna. Par contre, si un dévot rencontre d'autres dévots, aussitôt, le sujet de conversation tournera autour de Krishna, d'une façon ou d'une autre. Tout portera autour du service offert à Krishna, ou ce sera autour du service du maître spirituel.
Merci beaucoup. Om Gyana Tinarandasya Gananjana Sadakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri le Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Un petit quelque chose, je sais pas si c'est encore un commentaire, mais quand on voit un dévot, on a envie de parler de Krishna, oui, mais quand on n'a pas de dévot, puis on parle de la philosophie ou la conscience de Krishna sans prononcer le nom Krishna comme la majorité connaissent pas, est-ce que c'est la même chose ou c'est presque pas loin, mais c'est pas vraiment?
Non, c'est la même chose dans la mesure où Le dévot sait ce qu'il fait. Alors, si le dévot, d'après son jugement, voit que un message trop direct, ça ne fera pas l'affaire, mais qu'il faut y aller plutôt avec un message plus indirect, ben, basé sur son jugement, c'est correct aussi. Mais c'est quoi l'idée, disons, du comportement d'un dévot? L'idée derrière, dans le comportement d'un dévot, qu'il parle directement de Krishna, ou si ça lui semble pas convenable de parler de Krishna directement, mais autrement, l'idée, c'est de donner une chance à quelqu'un de faire un progrès qui peut l'amener éventuellement à la conscience de Krishna. Ça, c'est l'idée. Alors, est-ce que vous me suivez?
Oui.
C'est comme un peu quelqu'un qui est en prison puis a découvert une sortie, il veut la partager avec d'autres personnes. C'est un peu ça, non?
Ouais, on peut voir ça comme ça. Ouais, c'est une façon de voir. Mais pourquoi c'est correct d'y aller d'une façon très progressive? C'est simplement parce que il y a des personnes qui sont prêtes et il y a d'autres personnes qui sont pas prêtes pour la conscience de Krishna. Alors, faut savoir juger à quel degré les personnes sont capables d'en prendre, simplement. Alors, si on ne le sait pas, on peut toujours y aller la tête baissée, puis advienne que pourra. Ça, c'est une option. Et l'autre option, ben, c'est de dire quelque chose qui peut amener une personne à réfléchir et puis éventuellement arriver à une conclusion qui est proche de la conscience de Krishna. Alors, comme par exemple, si d'après ce qu'on vient de lire ici, bon, tu dis à une personne qui tu lui envoies, par exemple, qui est-ce qui a écrit ça, donc? En tout cas, il y a quelqu'un qui a écrit dans la littérature française, là. Je me souviens plus, je pense que c'est les Fables de La Fontaine. Ben, le silence est d'or, la parole est d'argent. Vous avez déjà entendu ça?
Oui.
Oui.
Bon. Alors, à une personne qui parle trop, qui sait jamais quoi dire et qui en dit toujours trop long, peut-être faire une petite remarque comme ça ou lui faire comprendre, vaut mieux en dire moins que trop. Mais évidemment, faut savoir tempérer le message parce que l'idée, c'est de ne pas offenser une personne aussi. Ça aussi, c'est une... Dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui parle justement de la maîtrise de la parole. Et un des critères, c'est de dire la vérité. Ça, c'est un. De deux, c'est le dire d'une façon qui n'offense pas, qui n'offense personne. Alors, c'est un art. Alors, qui est un bon exemple d'agir comme ça? Donnez-moi un exemple. De dire la vérité, mais en même temps sans offenser. Même si la vérité, comme on dit, un dicton qui dit dire les quatre vérités à quelqu'un. Alors, des fois, les gens vont dire, ils vont y aller avec une certaine brusquerie. C'est ça qu'on dit, brusquerie. Dans leurs propos. Et ça risque d'offenser ou d'irriter des personnes parce que soit le ton est trop dur, trop raide, même sans la moindre, peut-être politesse ou égard à autrui. Mais donnez-moi un exemple d'une personne qui dit les quatre vérités, en fait, qui dit les quatre vérités à tout le monde 24 heures par jour sans les offenser.
Mais après, vous parlez, parler assez direct, non?
Ben, justement, c'est l'exemple que je voulais entendre. Sur le Prabhupada, dans ses livres, il n'y a pas plus direct. Mais il n'offense personne. Et tout le monde prend. Donc, quand j'étais un membre actif de ISKCON, dans les années 70, en France, donc, parce que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en Europe, en France et en Allemagne. Mais il y avait une expression à l'époque, les dévots, quand ils disaient les quatre vérités à un autre dévot, pour lui faire faire des choses ou leur donner le fond de leur pensée, pas toujours, comment on peut dire, élogieux à l'égard d'un autre dévot. Alors, l'expression anglaise était, je vais vous le dire en anglais, là, les dévots disaient, I gave him the sauce. En français, on peut traduire ça par, oh, je l'ai bien arrosé, celui-là. J'y ai versé toute la sauce. J'ai envoyé la sauce. Mais qui n'envoie pas mieux la sauce que chez le Prabhupada? Chez le Prabhupada fait ça la journée longue, dans ses livres. Alors, il met tout le monde à leur place. Il n'y a personne qui s'en plaint. Pourquoi? Tout le monde le prend bien. À
parce
moins
qu'il est vrai.
D'être,
il est vrai.
D'avoir quelque chose dans le coco qui marche pas bien, là, mais en général, à 99,9%, ce que Prabhupada dit, même si ça semble dur ou raide, c'est accepté. Et pourquoi que c'est comme ça?
Parce que c'est la vérité.
Parce que c'est la vérité et tout le monde sait, c'est pour le bien de la personne. Alors, quand on a conscience, ah, ça c'est pour mon bien, puis qu'on accepte et qu'on fait confiance aussi au pur dévot, on sait quand il parle, il ne se trompe pas et il ne parle pas pour tromper autrui non plus. Ça, c'est une des difficultés aussi avec des personnes qui sont pas 100%, disons, pures, engagées dans le service de dévotion, c'est qu'on ne connaît pas leurs intentions. Comme par exemple, s'il y a un faux maître spirituel qui enseigne une philosophie impersonnelle ou se fondre dans le Brahman, c'est pas dans l'intérêt de ceux qui l'écoutent. Un pur dévot va dénoncer de telles personnes. Peut-être ces personnes-là qui se pensent bien spirituelles vont se sentir offensées, mais dans la réalité, il n'y a pas d'offense. Parce qu'elles-mêmes sont, Prabhupada dit, quelqu'un, un impersonnaliste, quelqu'un qui veut se fondre dans l'existence de Dieu et qui renie à Dieu d'avoir une forme, c'est le plus grand offenseur qui soit. Alors, C'est quelque chose, là. Mais un pur dévot n'est pas comme ça. Le pur dévot ne veut que le bien de son auditoire. Et c'est Krishna aussi qui est comme ça. Krishna ne veut que le bien. Krishna est absolu. Tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit, c'est toujours pour le bien de tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui.
Oui.
J'ai eu l'occasion de prendre assistance à un cours de yoga. Un cours de yoga assis.
Oui.
OK. Mais j'ai pas été parce que j'avais des mauvaises langues. On sait que présentement, les gens se prennent pour Dieu. Quand tu as un bon petit cours de yoga assis, tu vas venir Dieu, tu vas venir faire Superman. Alors, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai pas été.
Ouais, mais c'est ça. T'as bien fait. T'as bien fait.
Merci.
Ouais. OK, on va continuer le cours. 3.3, Virginie, s'il vous plaît.
Oui. 3.3. Que nos dires ne se rapportent pas à la conscience de Krishna, et 1000 sottises sortiront alors de notre bouche. Dès qu'il y a manque de vigilance, de discipline, de détermination liée à la conscience de Krishna, Maya s'invitera aussitôt dans le mental, puis, en premier arrêt, sur la langue. La porte est ouverte à toutes sortes de bêtises. Et comme si on les avait oubliées, évidemment, que les trois gunas s'invitent aussi à la fête. 3.4. Le crapaud des champs s'exprime en coassant. De même, tout homme qui a une langue veut parler, fût-ce pour dire des inepties. Mais par ses cris, le crapaud ne fait que convier le serpent. S'il te plaît, viens me manger. Bien qu'il appelle ainsi sa propre mort, rien ne peut l'empêcher de poursuivre son tapage. 3.5. Les paroles des matérialistes et des philosophes impersonnalistes sont semblables au coassement de ces crapauds. Ils profèrent sans cesse des inepties et invite donc la mort à les emporter. Le portrait des matérialistes est décrit dans le Srimad Bhagavatam 1.16.9. On peut se demander comment se fait-il que les matérialistes puissent être si indifférents quant au but de la vie humaine. Mandasya manda pradgyantsya vayo mandasyusha chavai nidraya idrayate naktam divacha Vyata Karmabi. Mandasya, de l'être indolent, manda, piètre, pragyatsya, de l'intelligence, vaya, âge, manda, courte, ayusha, durée de vie, cha, et veille, exactement, nidraya, endormant, idrayate, passe son temps, naktam, nuit, diva, de jour, cha aussi, vyata, pour rien, Karmabi parle des activités. Les indolents, à l'intelligence maigre et à l'existence courte, passent leur nuit à dormir et leur jour en vaines actions. Teneur et portée. Les hommes d'intelligence moindre ne connaissent pas la valeur réelle de leur forme humaine. Celle-ci représente un don privilégié de la nature matérielle et elle contraint les êtres vivants à souffrir sous l'emprise de ces lois intransigeantes. Car elle représente l'occasion d'obtenir le plus grand bien, à savoir l'affranchissement du cycle inextricable des morts et des renaissances répétées, et les intelligences vives profitent de ce précieux don pour s'efforcer de tout leur être d'échapper à ce tourbillon. Mais les hommes à l'intelligence faible se montrent plutôt indolents et incapables d'évaluer la valeur primordiale du corps humain. Plutôt que d'utiliser ce corps en vue d'atteindre la libération des chaînes de la matière, ils s'intéressent davantage à l'accroissement de leurs biens et travaillent très durement tout au long de leur vie à seule fin de jouir par leur sens en ce corps éphémère. Or, par les lois de la nature, ce plaisir est accordé même aux animaux inférieurs. Et de même, l'être humain se voit allouer une certaine part de satisfaction sensorielle selon les mérites qu'il a pu acquérir de par le passé ou dans sa vie présente. Cependant, il faut définitivement s'efforcer de comprendre que la satisfaction des sens ne représente aucunement le but de la vie humaine. Notre verset parle de ceux qui travaillent tout le jour pour rien, car leur but n'est rien que le plaisir des sens. Et nous pouvons plus particulièrement observer ce phénomène dans les grandes villes et cités industrielles. Tant d'objets y sont manufacturés par l'homme, tous destinés au seul plaisir des sens. Rien n'est fait pour échapper aux chaînes de la matière. Puis, après avoir peiné laborieusement tout le jour, l'homme épuisé s'engouffre dans le sommeil ou se livre à ses habitudes sexuelles lorsque vient la nuit. Voilà ce que propose la civilisation matérialiste aux intelligences moindres. Aussi les qualifie-t-on ici d'indolents et d'infortunés, sans compter leur courte durée d'existence. Plutôt que d'utiliser ce corps en vue d'atteindre la libération des chaînes de la matière, ils s'intéressent davantage à l'accroissement de leurs biens et travaillent très durement tout au long de leur vie, à seule fin de jouir par les sens en ce corps éphémère. Encore une fois, Srila Prabhupada fait mention de l'accroissement des biens comme leur intérêt principal, pour lequel ils consacrent leur vie entière à travailler dur comme des bêtes de somme. Ils ne se posent jamais la question à savoir à quoi ça peut servir de travailler aussi dur pour un séjour corporel qui n'est qu'éphémère.
Jai. Jai, merci beaucoup. Est-ce que des questions, des commentaires?
En avez une?
Oui. Excusez.
C'est dit que si quand on meurt avec qu'on est sur la voie de cette libération ou qu'on passe à Krishna, on renaît dans une famille où est-ce qu'on peut continuer notre démarche vers ce chemin. Maintenant, qu'est-ce que je veux poser comme question?
Excusez.
Il y a du monde, pour être riche et célèbre ou n'importe quoi dans cette chose-là, il faut quand même avoir fait beaucoup de travail sur la démarche spirituelle dans les autres vies. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont riches et tout ça, mais sont diaboliques, démoniaques. Alors, si c'est pas garanti, veut dire, puis qu'est-ce qui arrive à ce monde-là? Est-ce qu'il dégrade dans la prochaine vie? Pas sûr dans.
OK, ben là, il faut décortiquer un petit peu, là, dans le
OK.
sens que il y a deux types d'activités que les gens peuvent faire. Un, des activités pécheresses, et deux, des activités pieuses, ou des activités qu'on dit de piété. Le résultat des activités de piété, normalement, on dit bien normalement, c'est la richesse, la beauté, la renommée, ça c'est trois choses, c'est trois réactions d'activité pieuse. Et il y en a une quatrième. Cette quatrième-là, c'est l'opportunité d'accepter le service de dévotion, de s'engager dans le service de dévotion. Le service de dévotion, ça demande des activités pieuses dans le passé, ou dans la vie présente aussi. Alors, c'est Krishna qui dit ça dans la Bhagavad Gita au chapitre 7, verset 28, que ceux qui ont agi pieusement dans le passé et dans cette vie présente, et qui sont libérés des dualités de l'illusion, les dualités de l'illusion selon ce verset de la Bhagavad Gita, c'est lié au verset précédent, chapitre 7, verset 27. C'est le désir et la haine, ces dualités-là. Ils sont libérés de ça. Alors, ils peuvent s'engager dans le service de dévotion. Alors, dans la vie matérielle, combien de fois on entend les gens qui disent, ah, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, puis toute la journée, c'est comme ça. Ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Ça, c'est les dualités. Alors, pour un dévot de Krishna, qu'est-ce qu'il aime, lui? Il aime pas en fonction de ce qui peut s'appeler lui faire plaisir à lui. Il aime les choses en relation avec Krishna. Comme par exemple, si un dévot sait qu'il y a, mettons au temple, ils font une soirée spéciale, puis ils disent, bon ben, il y a un film sur les dévots qu'un dévot a fait. Comme par exemple, dans le mouvement, il y a un dévot qui fait ça. Un disciple de Prabhupada qui s'appelle Yadubar. Et Prabhupada lui a instruit d'utiliser ses talents. Lui, avant d'être dévot, c'était un photographe professionnel. Et son épouse aussi était photographe professionnelle, les deux ensemble. Alors, Prabhupada est une fois à Paris. Lui, il était là à Paris, moi aussi j'étais là. Et il dépose sa caméra sur le plancher pour écouter Prabhupada qui est en train de donner la classe. Et Prabhupada le fait venir. En tout cas, Prabhupada lui dit, il lui dit, jamais ne dépose ta caméra. En d'autres mots, il lui dit, faut toujours tu filmes. Faut toujours tu tournes quelque chose. Alors, évidemment qu'il va pas tourner 24 heures par jour, là, 365 jours par année, mais quand même, ça veut dire qu'il se trouve un engagement, puis il va filmer. Et il a fait des films comme ça. Il y a des films sur la conscience de Krishna, et c'est Yadubar qui a fait ces films-là. Alors, c'est un service pour Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Juste, si l'être humain qui a sur une voie de dévotion du Krishna dégrade, je ne sais pas si on, comment on dit, il recule, comme il ne viendra pas comme humain, est-ce que ça peut arriver qu'il peut être réincarné sur d'autres choses qu'un être humain, ou c'est garanti sur quelqu'un qui a de la dévotion que sa prochaine vie va être l'être humain pour continuer son chemin, veut dire.
Garantie, elle est dans la Bhagavad Gita. Krishna dit, Arjuna pose la question, à savoir si quelqu'un s'est engagé dans la spiritualité ou sur la voie de la dévotion, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Et Arjuna donne l'exemple, est-ce qu'il ne périt pas comme un nuage dans le ciel qui disparaît dans le ciel? Il y avait le nuage, puis avec le vent, tout ça, il est disparu, il n'y en a plus de nuage. Alors, Krishna dit non, sache que cette personne-là va prendre naissance soit dans une famille riche ou dans une famille de spiritualistes, et il va avoir encore une chance de continuer là où il a laissé dans sa vie précédente. Alors, il y a une suite. Mais l'idée, ce que Srila Prabhupada a enseigné, même si c'est garanti qu'on aura une forme humaine de vie dans la prochaine vie, il faut, ça c'est l'instruction de Prabhupada, finir ça dans cette vie présente. Parce qu'il dit, si on prend une autre naissance, on n'a aucune garantie qu'on va pas chuter encore une fois. Alors, l'exemple est donné de Bilva Mangala Thakur. C'est un grand saint qui, dans son ancienne vie, était arrivé à l'étape de Bhava. Bhava, ça veut dire l'étape de l'extase dans le service de dévotion. Le Bhava précède Prema. de pur amour de Krishna. Et lui était rendu juste avant ça. Alors, dans sa vie, il était né dans une famille de brahmana, une famille riche, et il avait un petit problème. C'est qu'il était trop attiré par les femmes. Alors, il avait beau vouloir être conscient de Krishna, mais les femmes lui tombaient dans l'œil. Il s'est rendu compte de ça à un moment donné. Et il était particulièrement amouraché d'une prostituée qui s'appelait Chintamani. Et Chintamani, en fait, n'était pas une femme ordinaire non plus. Alors, un jour, Bilvala Mangal, il y avait un grand orage, la rivière était toute déchaînée. Il voulait tellement voir cette Chintamani. Alors, il a affronté les éléments, il a traversé à la nage la rivière qui était en furie. Sur la rivière, il y avait un cadavre. Il s'est agrippé à ce cadavre-là, puis il a réussi à traverser l'autre côté. Puis là, finalement, il est arrivé à la demeure de Chintamani et la porte était fermée. Puis il y avait un mur autour de la maison. Alors, par terre, il y avait un serpent mort. Il a pris le serpent mort et ça en est servi comme une corde, là, ou quelque chose. Puis il a sauté par-dessus le mur. Puis là, finalement, il est arrivé à la porte de Chintamani. Il a cogné. Puis elle est venue répondre. Et là, il lui dit, « Oh, Chintamani, je ne peux pas être sans toi. Il faut que je sois avec toi. » Et puis elle a vu, « Wow, cet homme-là est vraiment attaché à moi. » Mais à travers elle, son maître spirituel a parlé à travers la prostituée. Et là, la prostituée lui dit, « Oh, Bilva Mangal, si tu avais autant d'attachement pour Krishna que tu en as pour moi, ta vie serait complètement merveilleuse. » Quand il a entendu ça, aussitôt sa conscience de Krishna est revenue. Et là, il a décidé sur le champ de s'en aller. De pas continuer avec cette prostituée-là. Il est revenu d'où il était parti. Et là, une fois revenu, fait son petit bonhomme de chemin, si on peut dire. Mais encore une fois, il s'en va dans un espace public, puis là, il voit une belle femme. Et là, il était attiré par cette femme-là. Puis il a suivi la femme. Et puis, la femme s'en va chez elle, puis son mari ouvre la porte à sa femme, puis sa femme lui dit, « Cet homme-là derrière, il me suit depuis longtemps. » Et ça se passe à une époque où les gens en Inde avaient beaucoup de respect pour les brahmanas. Et lui était un brahmana. Et le mari de la femme a vu, ah, ça c'est un brahmana, je ne peux rien lui refuser. Et lui, il dit au mari, il dit, je voudrais être avec ta femme ce soir. Alors, le mari dit, ok, tu pourras être avec ma femme ce soir. Alors, une fois avec la femme le soir, il demande à la femme, il dit, s'il vous plaît, donne-moi ton épingle à cheveux, s'il vous plaît. Alors, il donne l'épingle, elle lui donne son épingle à cheveux, puis là, il se transperce les deux yeux. Puis là, il se dit, mes yeux sont mes ennemis. Maintenant, ils seront plus mes ennemis. Alors là, il est devenu aveugle, et c'est s'en est retourné chez eux, là, il n'est pas resté là, là. Une fois aveugle, à tous les jours, Il entendait quelqu'un. Il entendait le tintement des clochettes aux pieds de cette personne-là. Puis cette personne-là venait lui donner du lait. Puis à tous les jours, ça se passait comme ça. Fait qu'une de ces bonnes journées, là, il s'est dit, « Ouais, ça doit être Krishna, ça, qui vient me voir comme ça. » Fait que là, il a attendu que la personne vienne près de lui. Et là, il a pris ses deux mains, ses deux bras pour étreindre cette personne-là. Et là, il dit à Krishna, il dit, peut-être tu peux te séparer de mon étreinte, mais tu ne peux pas te séparer de mon cœur. Alors, ça, c'est l'histoire de Bilva Mangala Thakur, un grand dévot de Krishna. Alors, ça montre justement qu'il y a une suite dans le service de dévotion, d'une vie à une autre vie. Et si on finit à 5%, ben dans la prochaine vie, on commence à 6%. Mais on devrait, si on écoute bien sur le Prabhupada, essayer d'en finir dans une seule vie. Et Prabhupada disait justement, « Ne m'obligez pas à revenir pour venir vous chercher. » Alors, Prabhupada voulait qu'on en finisse dans une seule vie. Alors, quand on lit ce qu'on vient de lire aujourd'hui, là, comment est-ce qu'un dévot peut avoir une certaine perception de la vie spirituelle, puis être conscient que en dehors de ça, en fait, ça donne rien. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? La question est posée.
Ben déjà, quand on se rend compte que les autres choses ne nous intéressent absolument plus.
Il faut pleurer à Krishna. Il faut parler par les mantras de Krishna. Il faut le supplier pour que on n'ait pas, veut dire, qu'on ait ce chemin-là.
Oui, justement. C'est avec le chant des saints noms que tout ça se fait. Le dévot doit être sincère quand il chante et par la grâce du saint nom. Il progresse, sa vision change. Alors, à un moment donné, les choses matérielles, c'est pas extra. Ça vaut ce que ça vaut. C'est utile dans la vie, mais c'est pas l'objectif principal. Et comme on a parlé ici aujourd'hui, les hommes d'intelligence moindre ne connaissent pas la valeur réelle de leur forme humaine. Alors, c'est quoi la valeur réelle de la forme humaine? C'est quoi?
C'est d'utiliser pour se rendre pied parallèle de Krishna, de servir Radha Krishna. Il n'y a rien d'autre. C'est le but ultime. Le reste, c'est juste temporaire, comme la vie, elle est temporaire dans ce monde.
Oui, oui, oui. Ça, c'est juste. Mais avant d'arriver là, d'après la teneur reportée, il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Alors, l'explication est, je dis ici, la ligne 12, page 43, ligne 12. Car elle représente, c'est la forme humaine de vie, l'occasion d'obtenir le plus grand bien, à savoir l'affranchissement du cycle inextricable des morts et des naissances répétées, et les intelligences vives profitent de ce précieux don pour s'efforcer de tout leur être d'échapper à ce tourbillon. Alors ça, c'est comme genre avoir le fusil sur la tempe à savoir t'avances ou tu recules. T'es supposé d'avancer. Alors, avoir le revolver sur la tempe. Le gars en arrière dit, hey, avance. Tu peux pas reculer. Alors, tu dois avancer. Alors, pardon, on t'entend pas?
La libération, c'est pas si facile que ça, dans le fond, parce que si on est éternel, alors ça fait des milliards et des milliards, des milliards de vies qu'on a pour arriver à un corps humain, puis on est encore ici. Alors, c'est pas facile. C'est pas si facile. C'est pas facile d'en sortir de cet tourbillon de renaissance et de mort.
Mais c'est ça, il faut être conscient, justement, que ça, c'est le vrai problème. Donc, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui dit, ça, c'est un des critères du savoir véritable. C'est de comprendre les mots, M-A-U-X, les mots que sont la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Janma, mrityu, jara, vyadi. Dukkha, dosha, nudarshanam. Dukkha veut dire la détresse. Dosha veut dire une faute. Dosha, nous veut dire toujours. Et darshanam, c'est comme le mot darshan, ça veut dire voir. Alors, quelqu'un qui voit tout le temps, qui est toujours conscient des problèmes de détresse qu'occasionne la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Quelqu'un qui voit ça, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est prendre refuge en Krishna. Parce que Krishna est appelé Mukunda. C'est celui qui libère de la naissance et la mort. Il n'y a personne d'autre capable de faire ça. Il n'y a pas le Seigneur Brahma, il n'y a pas le Seigneur Shiva. Personne. C'est juste Krishna qui est capable de faire en sorte qu'une âme conditionnée soit libérée de la naissance et la mort. Alors, un dévot, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abandonne à Krishna. Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est chanter à Krishna, s'abandonner à Krishna. Et puis, voilà. Alors, s'il ne s'abandonne pas à Krishna, qu'est-ce qui va arriver?
Maya va faire de la brume dans les lunettes. On ne verra plus rien.
Ben, il va s'abandonner pareil, mais il va s'abandonner à d'autres choses. Les demandes des sens, les demandes du mental, toutes sortes de choses. L'énergie matérielle peut créer des milliers de distractions. Tu sais, c'est... On peut dire... T'essayes de, mettons, t'as un arc et des flèches, t'essayes de viser la cible, mais t'es toujours en train de viser à côté. Alors, ça veut dire que tu sais pas tirer. Alors, il faut que, justement, un dévot oriente ses désirs, ses actions, ses pensées en fonction du but ultime. Et le but ultime, c'est Krishna. Penser à Krishna, parler à Krishna, agir pour Krishna, faire du service pour Krishna. Ça, c'est ce qu'un dévot doit prendre comme chemin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
C'est un peu comme quand on est bébé, on marche sur quatre pattes. Puis là, on est tous sur deux pattes. Pourquoi? Parce qu'on a essayé jusqu'à quand, veut dire, on réussit. Sinon, on verrait quelqu'un sur la rue en ce moment avec quatre pattes. Toi, lui, il n'a pas réussi à marcher sur deux pattes. Parce qu'on est sur deux pattes, parce que plein de fois on a tombé, mais on se relève tout le temps parce que c'était le but. Alors c'est un peu ça, un peu. Il n'y a pas d'autre chose à faire que c'est ça la vie. Il faut marcher sur deux pattes ou marcher vers la conscience divine.
Exactement, exactement. Parfait. On va continuer. On tourne la page.
On était au début de la page 44.
Ouais, c'est ça. Virginie, veux-tu lire, s'il vous plaît?
Il y a deux types d'êtres humains dans la vie. La Bhagavad Gita 2.69 nous les décrit. Yanisha Sarva Bhutanam, Tashyam Jagati Samyami Yashyam Jagati Bhutani Cha Nisha Pashyato Mune. Ya, ce qui, Nisha et la nuit, Sarva de tous, Bhutanam les êtres vivants, Tashyam en cela, Jagarti est éveillé, Samyami qui est maître de lui, Yashyam dans quoi, Jagrati sont éveillés, Bhutani tous les êtres, ça c'est Nisha la nuit, Pachyata introspectif, Mune parle pour le sage. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui pour tous est le temps de l'éveil est la nuit pour le sage introspectif. Teneur et portée. Il y a deux sortes d'hommes intelligents. L'un va se servir de son intelligence sur le plan matériel, dans le but de jouir de ses sens, quand l'autre va l'utiliser d'une manière introspective pour s'ouvrir à la réalisation spirituelle. Les actions du sage introspectif, de l'homme réfléchi, sont pour l'homme imprégné de pensées matérielles obscures comme la nuit. Ignorant son identité spirituelle, le matérialiste sommeille dans cette nuit. Le sage réfléchi, au contraire, reste vigilant dans la nuit du matérialiste. Il ressent une joie transcendantale au fur et à mesure qu'il progresse sur le sentier de la réalisation spirituelle, tandis que le matérialiste, endormi, fermé à la réalisation spirituelle, rêve de divers plaisirs sensoriels, éprouvant dans son sommeil tantôt la joie, tantôt de la peine. L'homme introspectif est toujours indifférent aux joies et aux peines inhérentes à l'existence en ce monde. Il poursuit son évolution spirituelle sans être troublé par les circonstances matérielles. Le Srimad Bhagavatam 2.1.2 décrit comment vivent les hommes dépourvus d'intérêt pour la réalisation spirituelle. Parfois, les matérialistes s'en prennent aux dévots de Krishna, les reprochant leur soi-disant bourrage de crâne. Mais en fait, c'est eux qui ont le crâne bourré de toutes sortes de saletés qui n'ont rien à voir avec leur véritable pure identité spirituelle. Le verset en question se lit comme suit. Shrota via Dini Rajendra Nrinyam Santi Sasravsha Apashiyatam Atma Tadvam Griyeshu Griya Medinam Srotavya Adini, sujet à entendre, Rajendra, ô empereur, Nrinyam, de la société humaine, Santi Ilya, Sahasrasha, des centaines et des milliers, Apashiyatam, des aveugles, Atma Tadvam, la connaissance de soi, la vérité ultime, Gieshu, chez soi, Gia Medinam, de personnes trop absorbées matérielles, le ment. Aveugle au savoir qui touche à la vérité suprême, ceux d'entre les hommes qui s'absorbent par trop dans la vie matérielle connaissent d'innombrables sujets qui leur donnent matière à écouter au empereur. Teneur et portée. Les écritures révélées regroupent en deux catégories distinctes les hommes qui se vouent à la vie de famille. Les uns sont dits griyasta et les autres griyamedi. Les griyasta cohabitent avec femmes et enfants, mais ils se consacrent à la réalisation de la vérité suprême. Quant aux griyamedi, ils ne vivent que pour assurer le bien-être des membres de leur famille, proches ou éloignés, et jalouses ainsi tous les autres. Le mot « médi » indique que la jalousie envers autrui, caractéristique de ces griyamedi, qui ne vivent que pour leur famille. Par conséquent, un griyamedi n'est jamais en bon terme avec un autre griyamedi, et à une échelle plus vaste, une société ou une nation ne connaît jamais de bons rapports avec sa contrepartie d'égoïsme. Dans l'âge de Kali, tous les chefs de famille se jalousent mutuellement, aveugles qui sont au savoir, qui se rapportent à la vérité suprême. Les domaines politiques, scientifiques, sociaux et économiques leur fournissent une abondante matière d'écoute Et à cause de leur maigre savoir, ils négligent la question des souffrances majeures de l'existence, ainsi la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. À vrai dire, la forme humaine a pour but de mettre un terme définitif à ces souffrances, mais le griha-médhi oublie par l'énergie matérielle, oublie tout de la réalisation spirituelle. Pourtant, la véritable solution au problème de l'existence est de retourner à Dieu en notre demeure originelle, car c'est ainsi, la Bhagavad Gita 8.16 l'enseigne, que disparaissent naissance, maladie, vieillesse et mort, autant de souffrances liées à l'existence matérielle. La voie qui conduit l'être au Seigneur en sa demeure première consiste en l'écoute de ce qui a trait au Seigneur suprême, ainsi qu'à son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements, son entourage et sa diversité. Or cela, les sots l'ignorent. Ils prêtent volontiers l'oreille au nom et aux formes de toutes choses périssables, mais ne savent pas utiliser leur pouvoir d'audition pour leur bien ultime. Dans leur égarement, ils mettent également par écrit des divagations relatives au nom, à la forme, aux attributs, etc. de la vérité suprême. Ainsi, ne soyons pas de ces griha-médhi qui passent simplement leur jour à jalouser autrui, mais devenons plutôt de véritables grihastha, dans le sens que leur prêtent les Écritures. Être un grihastha, dans le vrai sens du terme, est impossible sans une maîtrise des sens élémentaires. Comment parvenir à la maîtrise des sens est pertinemment bien expliqué dans l'Upadeshamrita. L'Upadeshamrita n'est pas seulement destiné aux brahmachari, mais aussi aux grihastha, qui en ont encore plus besoin dû à leurs responsabilités, non seulement ne fût-ce qu'envers eux-mêmes, mais aussi envers les membres de leur famille. Leur responsabilité principale est d'inculquer aux membres de leur famille la nécessité de solutionner les problèmes de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et la mort, en retournant à Dieu. Comment faire cela si le grihastha n'est pas, dans un premier temps, un exemple de maîtrise de soi, et deuxièmement, qui prend très sérieux la pratique dévotionnelle de l'écoute assidue de tout ce qui a trait à la vérité suprême? Le rôle des véritables grihastha est tellement important qu'un grihastha réussisse à rendre sa famille consciente de Krishna, il aura réussi à changer une petite partie de la société, laquelle, à son tour, aura un effet bénéfique pour la société.
Oui, merci beaucoup. Alors, on a lu beaucoup de textes. Et qu'est-ce qui va faire que... Il y a différentes étapes, là, de... Tout ça, c'est, disons, des étapes de conscience de Krishna, si on peut dire. Et quelle est la base qui fait que on sera en mesure de progresser d'une étape à une autre étape ou d'une compréhension, si vous voulez, à une autre compréhension, d'une réalisation à une autre réalisation. Et comme ici, on a, c'est le Upadeshamrita, tous ces points-là, 3.1, 3.2, 3.4, etc., etc. Sur quelle base on peut avoir la, disons, comment on peut dire, le, en anglais on dit, voyons, on peut avoir l'incitatif pour progresser et pour tout comprendre et puis mettre en pratique tout ce qu'on a compris. Quelle est la base?
C'est pas notre degré d'abandon à la volonté de Krishna?
Il y a ça, oui. Mais même à ça. Donc, si je te dis, tu veux t'abandonner à Krishna, mais pourquoi? Comment tu en es arrivé à ça?
Mais si on ça, c'est par le qu'est-ce qu'on comprend avec les Védas, c'est ça commence avec la connaissance, et là, on comprend un peu, et on sait que la voie pour arriver à une évolution spirituelle, c'est d'attendre à rien. Alors, c'est vraiment s'abandonner, ça veut dire avec aucune attente d'évolution personnelle de l'ego. On s'abandonne à qu'est-ce que Dieu nous veut nous donner, on l'accepte. C'est être...
D'accord, mais qu'est-ce que Dieu nous donne qu'on accepte?
Son amour.
Plus élémentaire, 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 élémentaire.
L'intelligence.
Une certaine intelligence qui va nous amener à
la dévotion.
Oui, mais pourquoi la dévotion?
C'est la vérité, il n'y a rien d'autre.
Oui, mais la vérité sur quoi?
L'amour. L'amour.
Non, pas ça. Ah, on va pas tourner en rond plus qu'il faut, là. Le tout est basé sur comprendre sa véritable identité en tant qu'âme spirituelle. Ah, tout le reste est basé là-dessus. C'est pour ça qu'on continue à écouter ce qui a trait à Krishna. Alors, comme on a lu aujourd'hui le fameux verset du Srimad Bhagavatam, on a lu ça aujourd'hui tantôt, Shrotavyadini Rajendra, page 44, ligne 35, Nrinam Santi Sahasrasaha, Apashyatam Atmatadvam Griyeshu Griyamedinam. Alors, si on décortique ce sanskrit-là, en tout cas, Apashyatam, ça veut dire, Pashyata, ça veut dire voir. Mais Apashyatam veut dire ne pas voir. Et Atmatadvam veut dire, Atma, c'est l'âme. Tadvam veut dire la connaissance de l'âme ou l'existence de l'âme. Alors, Apashyatam Atmatadvam, quelqu'un qui ne comprend pas son identité d'âme spirituelle, ni pour lui, ou ni pour elle, et ni pour tout ce qui vit. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que, disons, Shrotavya Dini Rajendra, Nrinam Santi Sahasraha, Nrinam, ça veut dire les êtres humains, Santi, ça veut dire il y a, Sahasrasaha, et des milliers, des centaines et des milliers de sujets à écouter. Parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont, leur véritable identité. En d'autres mots, quand on entend quelque chose ou on écoute quelque chose, on doit se poser la question, est-ce que cela, ça me concerne vraiment en tant qu'âme spirituelle? Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question?
Oui.
Dans une société...
Ben si, il faut sans cesse faire preuve de discrimination. Sans cesse.
Exactement.
Surtout ça, quand c'est... on a affaire au monde extérieur et qu'on n'a pas vraiment le choix en l'état actuel, on est obligé de faire preuve de discrimination.
Oui.
Sur ses gardes, en fait, de toujours se dire non, ça...
Et c'est pourquoi c'est difficile d'être tout seul. Parce que l'énergie matérielle, elle n'arrête pas, comment on peut dire? Elle lâche pas le morceau. Et c'est comme un océan. On est en train de nager dans un océan de la naissance et la mort. Et il y a beaucoup d'illusions. Beaucoup de choses qui semblent super importantes, mais comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, expliqué par Prabhupada aussi, les vrais problèmes, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Quelle est la solution? On l'a lu aujourd'hui. La solution, c'est de retourner à Krishna, où ces problèmes-là sont absents. On a une certaine marge de manœuvre, mais en fait, on n'en a pas une marge de manœuvre. Il faut essayer. Oui.
On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Alors, dans le Sri Upanishad, c'est dit, Kurvan Neveya Karmani. C'est dans l'Ishopanishad. Kurvan Neveya Karmani veut dire, pour l'être humain, il n'y a pas d'autre choix que de consacrer toutes ses actions à Dieu, la personne suprême. Kurvan Neveya Karmani. Karmani, toutes les activités. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, pour un dévot, disons, un dévot, c'est spécial, parce que surtout un dévot qui en plus est initié par un maître spirituel, là, il y a encore moins de choix. Le choix est scellé, là, pour le restant de ses jours, à savoir, je dois servir mon maître spirituel. Puis le maître spirituel, lui, s'attend à ce que ça soit un service qui a une base fondamentale de réalisation spirituelle, à savoir, je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle et je devrais agir en tant qu'âme spirituelle. C'est ce à quoi le maître spirituel s'attend de n'importe quel disciple. Alors, c'est pourquoi c'est dit la relation entre maître spirituel et disciple, c'est une relation où, mettons, le maître spirituel parle de Krishna, puis le disciple va parler de Krishna aussi, mais en posant des questions, puis en servant le maître spirituel. Mais ça tourne autour de Krishna. Puis le maître spirituel, lui, c'est la même chose qu'il a vécu avec son maître spirituel. En d'autres mots, un maître spirituel, c'est fait pour s'enquérir de la vérité absolue, s'enquérir de Krishna. Et le maître spirituel répond et le disciple écoute. Ça, c'est Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Et c'est ça. À part de ça, il n'y a pas grand-chose à dire entre maître spirituel et disciple. Quand on regarde si vous regardez des vidéos de Prabhupada, disons, les Prabhupada Memories, les souvenirs des disciples de Prabhupada par rapport à Prabhupada, ben souvent, il y a des vidéos, justement, où ils sont en train de marcher avec Prabhupada, où Prabhupada est là, il y a un échange de questions et de réponses. Et c'est toujours sérieux, dans le sens que c'est le sujet est Krishna. Ça tourne toujours autour de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Pour être toujours avec Krishna, il faut s'habiller avec les Mahamantras.
Oui.
Tout le temps.
Exactement. Et il faut pratiquer le chant tous les jours, chanter un nombre prescrit de tours de Hare Krishna. Et c'est ça qui transforme la conscience aussi, qui purifie le mental. Et qui va faire qu'on recherche des échanges conscients de Krishna avec d'autres dévots.
Si, tout à fait. Puis il faut lire aussi un petit peu.
Ah oui.
C'est important.
Oui, c'est très important aussi. Alors, il faut chanter, purifier son mental, et aussi lire les livres de Prabhupada. Et puis
même quand on est loin, il faut privilégier les échanges en audio avec les dévots, les amis, la famille, enfin les gens qui qu'on sait avec qui on peut échanger justement parce que c'est rare ces échanges. Surtout si on n'est pas au temple ou dans une discipline vraiment où on est tout le temps où Krishna est vraiment au centre de notre vie dans les échanges avec les autres.
Ouais,
Parce que c'est ça qui est le plus difficile,
effectivement.
c'est les échanges avec les autres en fait.
Oui. Et il y a une part de responsabilité, disons, du dévot là-dedans. Parce que des fois, tu peux aller au temple, t'asseoir avec des dévots, puis Krishna n'est pas nécessairement le centre comme ça devrait être. Des fois, ça devient des échanges. Ah, ben, tu sais, un dévot demande à un autre dévot, qu'est-ce qui arrive avec toi, Prabhu? Et là, le dévot commence à raconter, ben, il y a un nouveau job. puis il fait, mettons, un nouveau métier, où il raconte des choses. C'est bien, oui, dans un sens, c'est humain. Mais relation dévot-dévot, c'est supposé de tourner autour de Krishna aussi. Ramener Krishna dans le portrait. Alors, ça peut pas juste être mondain-mondain, là.
Mondain-mondain, c'est 5 minutes. Mais si on a 1 heure pour échanger, c'est 2-3 minutes de mondain et puis le reste, on parle de choses plus concrètes et plus édifiantes.
Parce que... Oui, oui. Et c'est pour ça aussi, quand des dévots lisent les livres régulièrement, quand ils vont avoir des conversations avec d'autres dévots, si le dévot dit « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Prabhu? » Et là, toi, tu réponds, tu dis « Ah, je suis en train de lire le livre de Krishna, c'est tellement, tellement bon. » Là, tu racontes dans quel chapitre t'es rendu. Ou, par exemple, si tu as des questions philosophiques, tu exprimes ta pensée. Ça sert à ça aussi, les échanges entre dévots.
Exact, mais c'est
mettons, il y a un point qui t'a frappé, tu en parles, ou un point que tu trouves un petit peu spécial, puis tu peux même exprimer, ben, moi, j'ai lu telle chose, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ou qu'est-ce que t'en penses, Prabhu?
Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois la chose, quoi?
Ouais, c'est ça. Et puis, ça peut être surprenant, les réponses qu'on peut obtenir de tel ou tel dévot. Et puis ça, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de dévot qui, disons, qui n'a rien à offrir. C'est impossible. Parce que les dévots ont Krishna, alors ils ont quelque chose de conscience de Krishna qu'ils peuvent offrir, qu'ils peuvent partager avec d'autres dévots, ou qui peuvent demander à d'autres dévots aussi, dépendant de leur position. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Oui, en passant, le temple est dégagé de travaux sur 39, là. Et puis de travaux sur 39.
Ah, bien bon. Une bonne nouvelle.
Oui.
Ah, excellent. C'est bien. Excellent. Super. Après 2-3 ans, je pense que les travaux n'en finissaient plus. Bon, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va être plus facile de se rendre au temple et ils vont probablement avoir une station d'autobus qui est juste devant le temple. Je
ça,
pense quelque chose comme ça, là. Un arrêt à proximité, là, à la porte presque. En tout cas, on verra. Moi, ça fait un nombre de semaines que j'ai pas été là, mais quand j'ai été la dernière fois, il y avait des travaux, justement. Alors, autre question, commentaire?
Non.
OK.
Très bien.
Alors,
on
va
samedi?
Oui, c'est ça. Samedi le 20.
Oui.
On est le 17, oui. Samedi qui s'en vient. Il y aura un cours, Ishopanishad. Alors, vous êtes tous bienvenus. Merci beaucoup.
Merci à toi,
Prabhu. Hare Krishna.
Hare Bol.
Hare Krishna.
Bonne continuation de semaine.
Oui.
Merci.
Hare Krishna.
Hare Bol. Jai.
Hare Bol.
Jai.
Hare
Bol. Voilà.